Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les Immanquables.
Et on démarre avec la parution du jour, Rémi.
Le livre de Romain Verlet, PPDA, Le Prince Noir, est bien sorti aujourd'hui, malgré la colère d'accusatrices de l'ex-présentateur. L'une d'entre elles a assigné en justice Fayard, l'éditeur du livre, pour atteinte à la vie privée. Elle reproche à l'auteur d'avoir révélé tous les détails de ce que lui a fait subir Patrick Poivre d'Arvor quand elle avait 19 ans, en la nommant et sans lui en avoir parlé au préalable. Elle ne l'a d'ailleurs jamais rencontré, l'auteur.
Et ça pose évidemment souci, ce livre. Emmanuel Dancourt, vous faites partie de ces femmes qui avaient porté plainte contre, contre PPDA. Vous êtes également la présidente de MeToo Media. C'est vrai qu'on se demande comment, en fait, il peut y avoir un livre qui parle, je veux dire, de quelque chose d'aussi intime que le viol de quelqu'un, sans avertir la personne qu'on va donner son nom, quoi.
Alors, je vais juste rappeler quelques faits antérieurs. Romain Verlet, pour vous situer, c'est un journaliste qui fait du documentaire à la télé, qui avait signé ce complément d'enquête qui est paru le 28 avril 2022, qui a été la plus grosse audience de complément d'enquête jamais réalisée, qui était vraiment un réquisitoire implacable contre PPDA. Ce journaliste n'a pu mettre que 30% des infos qu'il avait dans cette enquête. Et donc, très envie, parce que beaucoup de gens sont venus le voir aussi après l'enquête, des sources, etc. Donc, très envie de poursuivre ça dans un livre. Donc, le livre paraît, tu as donné
ce que vous trouviez très bien, d'ailleurs, Emmanuel. Hein,
ce que vous trouviez formidable. Et je vais vous dire que le livre, il est incroyable. D'accord. C'est une enquête implacable aussi, extrêmement fouillée. Moi, je suis vraiment impressionnée par le boulot qui a été fourni. Il y a quand même des chapitres très, très forts. Enfin, je pense qu'il y a un chapitre sur la fille de PPDA, sur Solène, qui est quand même totalement fou. On apprend des tonnes de choses que moi, je ne savais pas, alors que je suis quand même directement concernée en tant que victime de PPDA et présidente de MeToo Media. Mais effectivement, dans cette charge de travail, dans les 100 interviews qu'il a pu mener, il y a une erreur. Il y a une erreur qui constitue, enfin, sur une victime que je connais bien, puisqu'elle est adhérente de MeToo Media, qui effectivement était parue, avait témoigné dans Mediapart, avait témoigné à TF1, mais témoigné en disant « j'ai été victime ». D'un viol de PPDA, mais elle n'avait jamais voulu aller plus loin.
Elle
n'avait
pas
donné les détails. Et l'erreur, c'est que là où moi j'ai raconté partout ce qui m'est arrivé, on est plusieurs victimes à avoir raconté partout ce qui nous est arrivé, ça devient de la donnée publique. Ouais. Il a parfaitement le droit de reprendre ça, je veux dire, c'est pas paru dans tous les quotidiens, les télés, etc. Ici aussi, j'avais témoigné d'ailleurs. Et Justine ne l'avait pas fait. Et donc, cette victime, elle a le droit, hein. Elle a parfaitement le droit d'attaquer en disant on a révélé mon viol, c'est quand même violent. Et moi, je comprends tout à fait.
Les détails.
En réveillant les détails.
Elle était connue. Voilà. Alors,
c'est vrai que
c'est les auditions à la police, en fait.
C'est 13 lignes. C'est 13 lignes au milieu de 400 pages. Mais je comprends que ça la choque. Donc, elle a parfaitement le droit d'attaquer le livre avant parution. C'est ce qu'on appelle un référé. Donc, c'est une comparution immédiate, hein. L'attaque, elle est à 20h la veille au soir. À 14h, tout le monde est au tribunal. En huis clos. Ça a été jugé en huis clos. Et ce qui a été décidé, c'est que, vu l'intérêt général de ce livre, et tout en reconnaissant le préjudice de cette victime, vu l'intérêt général de ce livre, le livre est bien en librairie, partout. Dans vos livres. Voilà ce qui s'est passé. Mais ça pose effectivement une question de l'accès aux sources, puisque s'il a pu trouver ce témoignage, c'est qu'il a eu accès au dossier, mais qui circule dans toutes les rédactions parisiennes. Je veux dire, tous les journalistes l'ont, hein, ce dossier. D'accord. Mais quel droit on a ou pas de mettre dans un livre une audition de police? Quand c'est de la donnée publique, il n'y a pas de souci. Quand ça n'est pas, c'était un peu plus touchy, quoi.
Oui. Frère Hermel.
Alors, par souci de transparence et d'honnêteté, Fayard est mon éditeur. Ouais. C'est l'éditeur qui va publier mon roman au mois de mai. Je dis ça parce que je veux être honnête.
Non, mais t'as raison.
Alors, j'ai lu le référé de la juge. C'est une juge.
C'est une juge.
C'est une juge qui a. Là. Ouais. Et elle défend le droit à l'investigation, le droit à l'enquête.
Tout à fait.
Et l'utilisation des PV, des procès-verbaux, de déclarations devant la juge, devant la police. Ben, c'est la base de toutes les enquêtes, de toutes
mais
les enquêtes.
Mais quel est l'intérêt de donner le nom de cette victime? Enfin, ça n'est pas l'intérêt du livre.
Alors, c'était aussi donner le nom qui était problématique.
Le truc, c'est que la justice considère Et Fayard considère, et l'auteur Régis Verlet qui a fait un travail formidable,
Romain Verlet,
c'est que c'était une manière de comprendre le modus operandi de
mais ça,
de
pas PPDA. Mais tu pouvais dire une plaignante, tu n'étais pas obligé de
mentionner. Oui.
Non, mais tout à fait.
Il y a d'autres personnes qui témoignent dans ce livre, qui n'ont jamais témoigné, jamais de la vie, et là, l'anonymat était respecté. C'est-à-dire qu'il n'a, cet auteur n'a
fait
pas.
L'erreur.
Il n'a pas donné le nom de quelqu'un qui n'était pas connu. Cette personne avait témoigné, notamment
à ses fins.
Mais après, tous les gens qui l'ont lu s'accordent à
quand un journaliste vous appelle, répondez-lui, ça permet de discuter, de délimiter les limites. Moi, j'ai un chapitre sur moi dans ce bouquin, vous verrez, on en a discuté ensemble.
Alors, cette personne dit qu'elle n'a pas rencontré l'auteur, mais elle l'a eu au téléphone.
Nous allons passer aux difficultés du jour.
Les difficultés du jour, le chausseur André est à nouveau en difficulté. Le tribunal de commerce de Nanterre a placé en redressement judiciaire début février. L'entreprise française d'enseigne de chaussures avait déjà subi le même sort en avril 2020 dans le contexte de la crise Covid. Il y avait une reprise en avril 2020. Mais là, c'est l'ensemble de l'entreprise qui était le repreneur, qui est en redressement judiciaire.
Et ça, le temps pour les marques françaises d'habillement, Thierry. Camaïeu qui a mis la clé sous la porte, Pimki, redressement judiciaire, Gosport, redressement judiciaire, André.
Dans certains cas dont on avait parlé ici, c'était des erreurs stratégiques, c'est-à-dire multiplier les magasins et les rachats d'emplacements alors que ce n'était pas plutôt la tendance. Sur André, je crois qu'il y a, quand on écoute un petit peu les personnes qui connaissent le dossier, notamment les délégués syndicaux, ils expliquent que la crise de Covid a fait extrêmement mal et qu'en fait, le soutien qu'il y a eu pendant le Covid n'a fait que repousser une échéance qui finalement s'est avérée être inéluctable là, cette fois-ci. Et puis aussi, je pense qu'il y a une modification des comportements. Aujourd'hui, moi, dans mon entourage, mes enfants, par exemple, le commandent par Internet, essayent, quand la paire ne va pas, renvoie.
C'est pas très écolo,
et ne vont plus. C'est pas moi. Et renvoie si la paire ne convient pas. Et je pense que c'est une façon de consommer aujourd'hui l'habillement et notamment les chaussures qui va se répandre au détriment de marques mythiques. Parce que moi, André, j'ai connu ça depuis tout petit.
Oui, mais André, mais après, marques mythiques, c'est vrai que c'est des marques qui ont des dizaines et des dizaines d'années. Mais Camaïeu, Pimki,
il faut avoir pris le pli du
c'est
numérique.
C'est pas des nouvelles marques, quoi.
Non, mais il faut avoir pris le pli du numérique et beaucoup ne l'ont pas fait.
Mais en plus, André, je suis pas sûr que ce soit une marque de jeunes, quoi. Enfin, c'est plutôt des femmes de 50, 60 ans qui vont.
Ça peut se rajeunir une marque, hein. Il y a plein de marques qui se rajeunissent.
Mais ça a quand même une image. Toi, tu connais André, Emma, moi aussi.
Mais parce qu'on est à plus de 40 ans.
On a pas 20 ans. On a plus de 40 ans.
C'est vrai que c'est triste. Moi, ça m'attriste parce que c'est vraiment notre enfance aussi. Voilà, parce que c'est une marque populaire. C'était pas cher, André. Enfin, c'était la marque des familles moyennes. Et voilà, c'est pour ça. Donc c'est triste, outre bien entendu tous les gens qui vont se retrouver à la rue. C'est un petit peu notre patrimoine et notre enfance qui s'en va. Les entreprises sont collées aussi à l'histoire de
Et tu sais, quand tu circules dans une galerie commerciale ou dans les centres-villes, tu vois les magasins, c'est Camaïeu, et il y a des photos des employés qui nous disent au revoir, il y a des têtes, on vous a aimé, nos clients vous remercient. C'est poignant, quoi. Et les rideaux sont encore baissés, les devis sont pas, les baux, pardon, ne sont pas encore repris. C'est poignant, vraiment.
Et là, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup dans ce secteur de l'habillement, notamment féminin. L'annulation du jour.
Vous reconnaissez ?
Beyoncé,
les billets pour le concert du vendredi 26 mai prochain au Stade de France se sont arrachés hier en moins d'une heure face à la demande prévisible. Une deuxième date avait d'ores et déjà été envisagée le lendemain, mais n'a pas pu être organisée. En cause, des travaux à la SNCF. Travaux menés sur la ligne B du RER qui imposent d'interrompre la circulation des trains en journée, en soirée et pendant certains week-ends entre janvier et mai 2023, dont la date du 27 mai. Alors, sur les réseaux sociaux, immédiatement, les gens se sont un petit peu acharnés sur Valérie Pécresse, qui est responsable des transports, présidente de région Île-de-France, sauf qu'elle a répondu en disant que, en remettant la faute sur le producteur de la tournée de Beyoncé, puisque les dates des travaux de la SNCF sont connues depuis 2 ans.
Oui, enfin, alors, à mon avis, le mec, il est aux États-Unis, il a autre chose à faire que de se dire, tiens, est-ce qu'il y a des travaux à la SNCF?
Il peut mandater quelqu'un en France pour se renseigner là-dessus.
Mais non, mais il a vu que la date était libre, il a coché, je pense.
Excusez-moi, il y a le RER. Il y a la ligne 13, la ligne 12, il y a le tramway 1, le tramway 8. Donc il y a quand même des voies d'accès au Stade de France en dehors du RER B. Donc est-ce qu'il n'y a pas une autre raison, tout simplement,
que ça se remplissait pas comme il voulait?
Non.
Je sais pas.
Une raison de Beyoncé qui avait peut-être pas envie de rester une journée de plus. Je ne sais rien. Mais ça me paraît bizarre que pour cette simple raison du RER B en travaux, ce concert soit annulé. Je comprends pas.
Non mais là, pour le coup, effectivement, c'est le principal moyen de locomotion qui mène au Stade de France, le RERD. Et peut-être qu'ils ont quand même été échaudés par la finale de Ligue des Champions entre Real et Liverpool.
Il y avait une grève.
Et ils se sont dit, oulala, il y avait une grève
sur le RER, ce qui a provoqué certains problèmes.
Exactement, ils se sont dit, vu l'engouement, parce qu'encore une fois, Beyoncé, ça doit être celle qui remplit le plus facilement en concert. Oui, non, ça nous étonne pas que tu écoutes pas Beyoncé. Enfin bon, bref, on peut rien faire, tu vois.
En fait, c'est pas dans la cible.
Mais c'est quand même. C'est quand même pas une très belle image de la France, Emmanuel Dancourt.
Oui, non, mais je cherche moi aussi, comme Thierry, je trouve la raison tellement simpliste, tellement bizarre, tellement pas suffisant. Je me dis, il y a forcément un loup.
Mais c'est ça.
C'est flou.
Je suis d'accord.
Et quand c'est flou,
il
y a un loup.
Non, mais si t'as trop de gens qui s'agglutinent dans des rames, juste le RERB, et ben ça pose souci, comme ça avait posé des soucis lors de la finale de la Ligue des Champions. Et donc, chat est chaudé, craint l'eau froide.
Il y a une autre date.
Thierry.
Quand c'est flou.
Ils auraient pu prendre le jour d'avant, mais peut-être qu'il était pris par quelqu'un d'autre.
À mon avis, il y a un truc qui nous échappe dans cette histoire.
Et ben écoutez, il y aura une date en tout cas le 26 mai.
Et pour une fois, c'est pas la faute de cette.
Non, mais la date du 26 mai, elle est déjà pleine.
Elle est pleine.
Ah oui, parce qu'il n'y a pas de travaux le 26 mai.
Mais c'est ça.
Mais il y en a le 27.
Voilà, ça tombe mal.
Oui, c'est ballot.
Le Zénith de Dijon est libre, je crois.
Oui, on lui en parlera bien. Je pense qu'elle va adorer cette proposition. Les ventes du jour.
Avec 147 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2022, l'e-commerce français affiche une croissance annuelle de près de 14%. Une tendance en trompe-l'œil, toutefois, parce qu'elle est tirée par les transports et les services. L'e-commerce, c'est aussi lorsque vous achetez un billet de train
ou des vacances
sur Internet, ou des vacances. Les ventes de produits en ligne, donc là on parle des produits achetés des vêtements par exemple ou de l'électroménager, elles enregistrent, les ventes en ligne, une baisse historique de 7%. En fait, c'est un retour à la normale après le coup d'accélérateur des années Covid.
On a quand même l'impression, Fred Hermel, qu'on est en train de changer d'air, que la surconsommation c'est fini quoi.
Oui, après, moi je vois ce chiffre, moyenne par Français 3500 euros. Moi je suis largement en dessous de la moyenne.
Ah bon ?
Je trouve ça beaucoup.
Tu mets tes vacances. Tu mets tes vacances d'été,
les
par exemple, un mois de vacances.
C'est e-commerce.
Mais 3500, ça me paraît.
Ça fait 300 par mois.
Je vais faire la moyenne avec toi parce que moi je suis très au-dessus de ça. Hein.
Ah bah oui,
Non mais regarde, tu commandes la révision de ta voiture. Maintenant, tu peux le faire sur chez des.
Et puis Doctolib, c'est complet.
Non mais tu peux le faire. Tu prends ta commande via Internet, tu peux payer à l'avance et tu vas faire ta révision.
Tout comportement marchand qui passe par Internet.
Après, oui, enfin. Là, pendant le Covid, automatiquement, ça a grimpé de manière
exponentielle.
Et donc depuis, il y a une baisse. En fait, ça se régule. Ouais. C'est plutôt normal. Malheureusement, il y a des emplois qui ont été supprimés. Des emplois qui avaient été créés, notamment chez Amazon, pendant le Covid, qui ont été supprimés. Mais ce qui est terrible, c'est que ce télescope, les deux informations d'André qui ferme de ses records de vente sur Internet.
Oui, mais les produits baissent de 7%, ça veut dire en fait qu'on consomme différemment, ça c'est sûr.
Oui.
Mais en revanche, on consomme moins de ce qu'on appelle de produits, c'est-à-dire de vêtements, de ça. Je sais pas si, là, c'était les soldes. Je ne sais pas si vous êtes un peu baladé, mais les magasins sont vides.
Comme avant.
Les magasins sont vides. Alors on peut dire c'est Internet, mais en fait, non, c'est même pas Internet, parce que ça baisse de 7%. Donc c'est quand même un changement de consommation. On achète moins qu'avant.
C'est exactement l'analyse que tu fais, Estelle. On est sur une mutation. Mais qui va durer plusieurs années. Hein. On est sur une mutation. Je pense que le Covid a bien accéléré les choses quand même. Mais c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui vit à 30 km d'une ville et qui suis à la campagne, très clairement, et puis toujours dans les transports, etc., etc., je participe, mais amplement à ce phénomène, mais très, très au-dessus de toi. Et je pense que ça ne va pas s'arranger. On va aller de plus en plus vers moins de retail, moins de magasins physiques, ça veut dire. De plus en plus, on va aller vers ça. Ça paraît.
C'est dommage.
C'est dommage. Et en même temps, les gens aiment bien malgré tout le physique. Donc, c'est pas pour maintenant.
Mais ça va bénéficier aux grands groupes, évidemment. C'est les géants d'habillement qui vont bénéficier de tout ça.
Il y a aussi une question de pouvoir d'achat, faut pas se leurrer.
De pouvoir d'achat.
Que ça baisse aussi. Alors qu'on ait un vent de l'histoire qui fait qu'on commande plus par Internet, ça c'est évident, tu en as parlé. Mais le fait qu'il y ait une baisse globale, c'est parce que les gens, ils n'ont pas forcément d'argent, que ce soit pour acheter pour Internet ou aller dans les magasins.
Très clair.
D'où l'essor de Vinted.
Et voilà. Les secondes mains.
Un truc horrible.
Et en plus, plus écolo. Donc en plus, c'est aussi le vent de l'histoire.
Il y a un truc horrible qui se passe, et vous en parlez avec des commerçants de fringues ou de chaussures, sont des gens qui vont essayer le produit en magasin pour être sûr de la taille et qui après le
trouve sur Internet moins cher.
Parce que c'est moins cher. Ça, c'est horrible.
C'est horrible, mais si les magasins s'adaptent,
c'est horrible. Tu fais ça pour l'électroménager, tu fais ça pour plein de trucs.
Oui,
quoi.
Évidemment.
C'est la loi du marché.
Tu vas dans une grande enseigne et qu'elle est, j'ai n'importe quoi, à 250 et que sur Internet, il y a un rabais et que tu peux l'avoir à 210, bah, je suis désolée.
Mais c'est exactement ça. Tu vas chercher le conseil en magasin chez Darty, chez Boulanger, je ne sais pas où. Et après, tu commandes sur Internet moins cher.
Pour les gens qui
font c'est beaucoup l'électroménager.
Et sur les hôtels, tu peux par exemple te servir des plateformes. Tu appelles l'hôtel derrière et tu dis sur telle plateforme, ils me font tel prix, est-ce que vous vous alignez ? Et souvent, ils s'alignent. Et comme ça, tu voilà, mais tu as quand même ta ristourne. Mais il n'y a pas de raison de payer plus cher, en fait, Fred.
Non, c'est pas question de payer plus cher. Mais de demander un service à quelqu'un qui va te sortir la robe, qui va te la faire essayer, etc. Et après, tu vas l'acheter ailleurs. Donc,
mais tu crois qu'ailleurs, elle sort de ton écran, ta robe ? Il y a toujours quelqu'un qui va être la chercher quelque part.
Bon, heureusement, je reste là pour défendre le petit commerce.
Bon, on va terminer avec les préférés du jour.
Décathlon, la Fnac, Picard sont les enseignes préférées des Français en 2022, selon le classement annuel de la société spécialisée OCC. Le géant américain du e-commerce, en revanche, Amazon, qui enregistre pourtant de très bons résultats en France, ne figure toujours plus dans le top 10, comme c'est le cas d'ailleurs depuis 2020 et la crise Covid.
Donc c'est Décathlon en 1 ?
Décathlon en 1, la Fnac en 2 et Picard en 3.
Ah oui, quand même.
Moi, je ne vais jamais chez le premier, je ne vais jamais chez le troisième, mais j'aime beaucoup le deuxième, la Fnac.
Pareil. Bah moi, je vais beaucoup chez le troisième.
Pareil. D'accord. Je vais jamais chez le troisième et jamais chez le premier.
Oui, mais tu connais les marques. C'est les marques qui te parlent.
Je vois pas le côté affectif.
Affectif, non.
Alors, moi, j'aime pas le sport, donc Décathlon, ça.
Oui, ça, ça, on se doute bien. Ouais.
Mais le côté affectif qu'on peut avoir avec Picard.
Mais tu vois, en 4, il y a Leroy Merlin et en 5, il y a Ikea.
Leroy Merlin, oui, parce que je bricole beaucoup à la campagne. De toute façon, on a toujours un truc à bricoler. Donc.
Et puis la Fnac, c'est.
Il y a Ikea, il y a Sephora.